sola la Aza kadeş delele et Dağ gitse vahele leydi Nani alalal cat vaffa وفر جلاله أبي أليسن الجليله يارقي وفر ليله قويدنا جثل لقم الطاونا
Nous vous proposons sur Radio Canu un programme spécial en forme de commémoration et d'hommage aux victimes de la répression policière des manifestations du 17 octobre 1961. 50 ans après, jour pour jour, ce 17 octobre 2011, nous vous proposons d'entendre, la nuit durant, divers documents sonores, émissions, documents d'époque et évocations théâtrales postérieures. Ce programme d'une durée de plus de 5 heures sera diffusé presque deux fois consécutivement jusqu'à 8 heures le matin de ce 18 octobre. Nous l'ouvrons par la rediffusion d'une émission Bistentlac du 15 février 1999 consacrée au thème Évocation du 17 octobre 1961. Bonne écoute.
Notre émission Bistentlac de ce soir est consacrée à une évocation du 17 octobre 61. Et pour la commencer, nous écouterons une chanson interprétée par la Tordue de leur composition, dont le titre est Paris, octobre 61.
Paris sous la pluie, trempé comme une soupe, sous comme une barrique. Notre-Dame est vierge, même si elle est à tout le monde, et malgré son penchant pour les cierges, oh. À l'heure où les gardes du bail, le bossu du parvis s'en va pisser sa nuit dans les gogues du diable. Alors paffent les gargouilles sur les premières grenouilles, sentant de bénitier bien plus bête que leur pied qui ne fut jamais pris au pas de mauvais pli. Dans leur lit refroidi, tombeau des vieilles filles, cachot de la vertu, pourtant pas de ciel en vue. Surtout pas de septième, pour ces corps en carême, au cœur empaillé, au cul embastillé, à l'abri des bascules, et à leur grande âme, qui est toute minuscule, ne connaîtront jamais ni la grâce ni les grâces matinées. Est-ce pendant que Paris, Paris sous, Paris, Paris, Paris sous, en dessous de tout, dessoule par-dessus les ponts. La Seine est jolie, ne serait-ce Morimon qui déshonore son lit, mais qu'elle traîne par le fond, inhumant dans l'oubli. Une Seine tuerie, c'est paraît-il légal. Les ordres sont les ordres, c'est Paris qui régale. Ma policière horde de coups et de sang ivre, qui eurent carte et nuit blanche pour leur apprendre à vivre. À ces rats de souches pas franches, d'un sang impur et noir, abreuve nos caniveaux, et on leur fit la peau avant de perdre la mémoire. Les pendants enragés, aux fenêtres consentantes, et en passant soit dit, des mots acquiescent, durent pourtant résonner. De la chaussée sanglante, jusque dans les Aurès, leur prison se relie, sous la froide chaux-vive, d'une pire indifférence, accompagnée de vives, les boules cassées, la France.
Hop, hop, hop.
François, dors sur tes deux oreilles, mais je ne jurerai pas, toi sans faute aujourd'hui, que l'histoire ne s'enraye sous le ciel de Paris.
Le 17 octobre 61 est une date noire de l'histoire contemporaine de la France. Ça fait maintenant 38 ans, bien 37 ans. Et elle est noire et à ce titre refoulée et laissée dans l'ombre. Et pourtant, il s'est passé ce jour-là des événements qui méritent de ne pas être oubliés et qui ont toujours, hélas, une certaine forme d'actualité. En tous les cas, comme le dit Benjamin Stora, un professeur historien français, c'est l'une des rares fois depuis le 19e siècle où la police a tiré sur des ouvriers à Paris. Alors quel était le contexte de 17 octobre 61 ? C'est une date qui a un rapport avec la guerre d'Algérie. Il suffit de dire déjà que la guerre d'Algérie en était proche de la fin, puisque 5 mois plus tard, c'était les accords d'Évian qui allaient être signés. Et c'était une période, effectivement, où la tension était très forte et montait progressivement. En France, les Algériens, qui étaient nombreux et qui ne savaient pas trop s'ils étaient effectivement des Français comme les autres, d'ailleurs, ce jour-là, ils ont eu l'occasion de se rendre compte que pour la police, ça n'était pas le cas. Les Algériens, donc, soucieux de, au niveau des directions politiques, de faire valoir leur représentativité, avait décidé de mener une grande manifestation. Il faut dire que cette manifestation, elle a été provoquée par l'attitude du gouvernement français qui, soi-disant, enfin, effectivement, il y avait des attaques de commissariat. Enfin, bref, on a voulu instituer un couvre-feu par un décret le 5 octobre 61. Et qui était à l'origine de ce décret ? Eh bien, je vous le donne en mille. Un qu'on retrouve tout au long de l'histoire dans des épisodes sordides, Maurice Papon, bien entendu. Voilà donc le contenu de ce décret.
Dans le but de mettre un terme sans délai aux agissements criminels des terroristes, des mesures nouvelles viennent d'être décidées par la préfecture de police. En vue d'en faciliter l'exécution, il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. D'autre part, il a été constaté que les attentats sont la plupart du temps le fait de groupes de 3 ou 4 hommes. En conséquence, il est très vivement recommandé aux Français musulmans de circuler isolément, les petits groupes risquant de paraître suspects aux rondes et patrouilles de police. Le cabinet du préfet de police, 6 octobre 1961.
Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. et j'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont péri. Il est mort sans souffrance. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi et je tourne en rond dans la prison des frontières. Le vent passe sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
Les Algériens, il faut se remettre ça en tête, c'est difficile aujourd'hui, étaient des citoyens français, même si certains étaient de seconde zone. À ce moment-là, en 61, ils étaient citoyens français. Et on dit, eh bien, à partir de tel jour, il faudra que les citoyens français, ah, alors quel type de citoyens français ? Frisés, basanés, restent chez eux après 8 heures du soir. C'est extraordinaire, je veux dire. Moi, je crois que là, il y a quelque chose de formidable, que des gens, que des politiques, hein, puissent prendre une décision comme celle-ci, c'est-à-dire comment on reconnaît un Algérien qui n'existe pas, puisque l'Algérie n'existe pas, d'un Français. Ben, on le reconnaît parce qu'il est frisé, parce qu'il est basané. Bon, il y a les Kabyles blonds, heureusement, hein, pour eux d'ailleurs. Et, bon, donc, à partir de ce jour-là, tout type bronzé basané qui se promenait à partir de 8 heures du soir dans Paris, bah, prenait les risques. Et il y a eu les Portugais qui ont été tués. Et il y a eu, dû y avoir un certain nombre de touristes qui venaient d'Amérique latine ou d'ailleurs, qui ont dû se faire rosser ou contrôler brutalement.
Tu vois-tu naître noir, dis-moi, ou bien jaune, crois-moi. La couleur, c'est un truc qui trompe pas, je te crois. Les messieurs, bien mis, nous l'ont toujours dit. La seule chose qui paye, c'est le blanc, vois-tu. Et tu vas le payer, d'être né, je te crois, comme t'aurais pas dû. T'aurais pas dû non plus, ni roman de purée. Tu crèveras pour mes. Le pognon, c'est un truc qui trompe pas, crois-moi. Et tu vas marner toute la journée. Ça paye, c'est le monsieur qui l'a dit. Voilà. Si tu veux croquer et pas te faire saquer, faut pas réclamer. Si tu veux pas bosser, c'est ton droit, mon gars. Y a de la liberté. Tu as le choix, tu peux te croiser les bras, mon gars. Tu lècheras le trottoir, tu boufferas du noir. Faut que tu payes ton pain avec ta peau, mon gars. Les baignoires dorées, c'est pas pour tes pieds. Il faut être bien né. C'est qu'il n'y a pas de morale, mais qu'il y a un bon Dieu qui a coupé le monde en deux, ça le fait rigoler. Et si t'as poussé du mauvais côté, faut bosser, faut bosser, faut bosser, mon vieux. Et tu vas le payer d'être noir ou chinois, ou bien n'importe quoi.
Nous venons d'entendre Jean Arnulf qui interprétait « T'aurais pas dû » une chanson de Sega Tenio après que Mouloudji ait chanté la complainte du partisan.
Donc en manière de riposte, les Algériens ont décidé de faire une grande manifestation pacifique, une manifestation qui devait regrouper le maximum de monde en trois points de la région parisienne, les Champs-Élysées, les Grands Boulevards et le Quartier Latin. Et c'est donc cette manifestation que la police, sans vraiment prévenir, a décidé de dans le principe d'interdire et surtout de rendre impossible par une répression féroce et violente sur laquelle nous allons revenir à travers aussi les témoignages de différentes personnes, à la fois d'origine algérienne et d'origine métropolitaine, qui en parleront.
Avait donné comme ordre à chacun des militants de braver le couvre-feu. Il n'avait pas prévu un mouvement d'ensemble. Il avait simplement dit il faut que les militants algériens ne tiennent pas compte de ce couvre-feu et sortent après 21 heures. Mais il y a eu de graves inconvénients. C'est que chaque individu, lorsqu'il était interpellé après 21 heures, était emmené dans un commissariat pour commencer, vérification de sa situation, amené dans un camp de transit. En conclusion, relâché au bout de 7 à 8 jours, il se retrouvait sans place, au chômage et démuni de tout. D'où une certaine réticence pour les Algériens de braver le couvre-feu d'une façon individuelle. Il y avait donc les 4 coordinateurs qui ont pris conscience de cette situation. Il y avait Sadr, il y avait Zouaoui, il y avait Amroun Mustapha, et il y a un quatrième dont je ne me souviens. Ils ont analysé les inconvénients découlant de la directive du comité fédéral et ont décidé que si le couvre-feu devait être violé, il devait l'être par toute l'émigration réunie, mobilisée et amenée en masse en plein cœur de Paris.
On a suivi la date le dimanche 15 octobre. On a transmis à la population, aux Algériens, le 16, lundi, pour mardi. Notre endroit précis pour se rendre, c'était boulevard Saint-Michel. Donc, il faut se rendre à Paris, vers la porte d'Orléans, et de la porte d'Orléans, se rendre au boulevard Saint-Michel. On a eu des ordres stricts que c'est une manifestation pacifique, et d'ailleurs on a eu même des ordres de ne pas répondre à aucune provocation.
Le ciel noir s'y donne aux villes, trop souvent tu nous fais trembler. Par tes lois et tes règlements, le conditionnement de la peur, sans le savoir, c'est ton métier. Tes flics, on t'apprend à tuer. Mais un jour devant ton fusil, la poitrine déchirée rouge sang, je n'aurai plus peur de mourir. Il y a des rêves qui ne meurent jamais, un espoir qui ne s'éteint pas, qui est plus fort que les canons. Je te cracherai toute ma révolte, toute ma haine et ma soif de vivre. Enfin debout face à tes lois, je te cracherai au visage le venin de ta répression. Sentir petit, ça rend méchant. Ta matraque et ton fusil, symbole de la violence armée, ils ne seront plus assez forts. Tu pourras tirer dans ma poitrine, tuer ce cri de liberté. Je n'aurai plus peur de la mort. Bien sûr, je vais pleurer de mal, des larmes chaudes, couleur de sang, couleur de peine, douleur d'enfant. Bien sûr, je vais pleurer de rêve pour cette vie qui s'en ira, criblée de tes balles.
fond de mon cœur. Plus fort que jamais cet espoir d'une vie sans limite et sans fin. Il y a des rêves qui ne meurent jamais, un espoir qui ne s'éteint pas, qui est plus fort que les canons. Si tu savais ma vie comme elle est belle, loin de tes barreaux, loin de tes tortures, elle est faite de pensées fleuries, d'amour dans le tendre. Elle cherche le premier rayon de lumière, celui qui naît d'un sourire d'enfant. Elle est faite de la chaleur de ses bras, endormie une oreille sur son cœur. La tendresse au bout des doigts, la vie à fleur de larmes, à fleur de peau, les yeux perdus dans les étoiles. Si tu savais ma vie comme elle est belle, loin de tes barreaux, loin de tes tortures. La poitrine ouverte de noir, la vie s'éteint à bout de souffle, mais le cœur rempli d'amour, traversé de mille souvenirs. Petit garçon qui court dans les champs, qui sourit aux feuilles qui s'envolent. Des larmes plus brûlantes que le mal, au seuil du sommeil de l'hiver, redevenu petit garçon. Dans tes yeux peut-être l'amour, alors peut-être, peut-être que tu me tendras tes mains.
Une des caractéristiques de cette manifestation, avec le recul, en plus de la violence policière gigantesque, c'est le nombre de morts. On a voulu nous faire croire, dans les statistiques officielles, qu'il y avait eu 3 morts. On a voulu nous faire croire, Monsieur Papon surtout, que c'était des règlements de compte entre des tendances algériennes, le FLN et le MNA. Si on regarde la presse du lendemain, Le Parisien titrait « Violente manifestation nord-africaine hier soir à Paris ». France Soir titrait « 10 000 nord-africains arrêtés à Paris après la manifestation du FLN ». Rien sur les morts, des journalistes peu informés donc. Toutefois, on relève que l'Humanité quand même avait son bandeau au-dessus du titre écrit pour protester contre le couvre-feu. Plus de 20 000 Algériens ont manifesté dans Paris et sa banlieue au cri de « Algérie algérienne ». 7 500 sont arrêtés. Combien de morts ? Point d'interrogation. C'est pas inintéressant de voir que seul ce journal avait évoqué la possibilité, puisqu'on s'en doute que les informations étaient peu distillées le lendemain de la manifestation. Néanmoins, au fil des jours, comme les cadavres étaient récupérés dans la Seine, il a bien fallu se rendre à l'évidence qu'il y en avait beaucoup plus que ce qu'on pensait. À l'occasion d'un procès qui se déroule actuellement avec M. Jean-Luc Enaudi, un éducateur du ministère de la Justice qui a choisi de s'intéresser de près à ces événements et qui a déjà publié un bouquin en 91, La bataille de Paris, là-dessus, et là est mis en cause par Papon qui a traîné devant la justice au titre d'une phrase qu'il aurait écrite dans le journal Le Monde. Il y eut à Paris un massacre perpétré par des forces de police agissant sous les ordres de Maurice Papon. Voilà l'objet du procès qui se déroule actuellement et qui nous amène à revenir un petit peu sur l'actualité de ces événements. À l'occasion de ce procès, en tous les cas, une personne qui s'appelle Brigitte Lenné, conservatrice des archives judiciaires de Paris, est sortie de sa réserve statutaire pour faire valoir certaines choses qu'elle a découvertes, parce qu'il faut bien dire que les archives ont disparu en quantité phénoménale sur cette affaire. Elle a révélé que 103 affaires ont été classées sans suite pour la période de septembre à décembre 61, soit 71 cas de plus que ceux reconnus officiellement en 98 par le rapport Mendelkern, conseiller d'État, un rapport qui a été produit sur une initiative du gouvernement Jospin d'ailleurs. Nous avions auparavant entendu Joseph Morena, chanteur lyonnais, qui interprétait sa chanson « Le sang de la liberté » après que Mohamed Chali ait témoigné. Nous retrouvons maintenant le témoignage d'Eli Kagan, le photographe qui a produit les documents les plus accablants sur cette nuit du 17 au 18 octobre 61.
Alors je me dirige vers le pont de Neuilly, et puis alors là j'ai vu les autobus pleins, avec des Algériens parqués, les mains sur la tête et tout, et toute la circulation arrêtée. D'ailleurs j'étais assez étonné parce que ces autobus étaient conduits par des ouvriers de la RATP, quoi, et ça leur posait aucun problème, quoi. Je sais pas si en 42 les autobus étaient conduits aussi par des ouvriers, enfin. Et là, toujours par une radio de la police, j'entends « ça tire à Nanterre ». Alors là, je suis allé à Nanterre. Bon, alors là, c'est le plus gros des ratonnades que j'ai vu, quoi, et que j'ai photographié. C'est là, rue des Pâquerettes, elle s'appelait, la rue. D'ailleurs, c'est à cet endroit qu'on a construit la faculté de Nanterre. Bon, ça s'appelle le pont de la folie. Alors, j'ai entendu tirer, et quand je suis arrivé, alors là, j'ai vu des Algériens morts et blessés, quoi. Et surtout un qui criait en arabe, maman. Et à un moment, il y a une voiture qui s'arrête, et c'était un journaliste américain qui commence à m'insulter. Comment vous pouvez prendre des photos alors qu'il y a des gens blessés et tout? Alors je dis, au lieu de rouspéter, moi je fais mon métier, si tu veux, maintenant viens, on va le prendre, on va l'emmener à l'hôpital à Nanterre. Et au moment où on l'emmène, on le met sur une charrette, et il y a un des infirmiers qui fait, et un raton de plus, hein.
Arrivé à la hauteur du pont de Neuilly même, à la hauteur du pont de Neuilly, on avait un militant qui s'appelait Lamara, qui quand même a forcé le barrage malgré, disons, l'interdiction aussi bien des Harkis, des CRS, puisque le pont de Neuilly était surchargé de CRS, de policiers et de Harkis. Ils l'ont averti, il est vrai, ça je l'ai entendu, puisque j'étais presque à l'entrée du machin, du pont de Neuilly, j'étais parmi les premiers du cortège. On lui a dit, monsieur n'avancez pas, mais lui, il a quand même, disons, pour donner du courage aux gens pour avancer, il a avancé et il a été presque cisaillé en deux par une rafale de mitraillette. Et du coup, tout le monde a paniqué. À partir de cette panique, tout le monde s'est replié. Et d'un côté, nous étions bousculés à travers le machin du pont de Neuilly, nous étions bousculés par la police qui, par la même occasion, tirait en l'air, il est vrai. Et de l'autre côté, il y avait quand même les responsables du FLN qui étaient chargés justement de la manifestation, enfin de l'encadrement de la manifestation, qui poussaient les gens en les encourageant, en leur disant « mais n'ayez pas peur, après tout, vous pouvez bien vous sacrifier pour votre pays, etc. » Mais malheureusement... plutôt le repli était plus fort que d'avancer.
Je voudrais vous livrer quand même ce témoignage d'un policier témoin des violences qui s'est exprimé sur RTL. C'est rapporté ça dans le Libération du 18-19 octobre 1997. Un policier à la retraite, il était âgé à l'époque de 32 ans. Et la journée et le soir du 17 octobre, il était de permanence et de surveillance dans une voiture devant le centre d'hébergement de Vincennes, qu'on appelait aussi centre d'identification. Il démarre son témoignage en parlant de la violence de ses collègues à la hauteur du pont de Neuilly, où selon lui, il y a eu au moins de 10 à 20 victimes. Alors, citation. « Les collègues qui intervenaient là-bas jetaient quelques Nord-Africains dans la Seine. Ceux-ci, bien sûr, disaient « Mes chefs, je ne sais pas nager ». Et les autres de répondre « Ça fait rien, saute quand même ». Alors, bien évidemment... D'autres se sont écrasés, non pas dans l'eau, mais à côté sur le quai. Entre 10 et 20, c'était quelque chose comme ça. Et ensuite, les forces de police les ramassaient et les ramenaient au centre d'identification de Vincennes, où ils étaient accueillis par des escadrons de gendarmes mobiles qui s'en donnaient à cœur joie, à coups de crosse, de mousquetons, etc. Ils déchargeaient les Nord-Africains des gros camions de P-45 et ils les faisaient entrer ensuite par une petite porte entrouverte, là où tout le monde cognait les feux à volonté. Mais qui avait donné ces ordres, demande le journaliste. Ces ordres, je ne pourrais vous en donner la provenance, mais enfin, c'était surtout qu'ils laissaient faire. Vous aviez l'impression que vos collègues agissaient en toute impunité, qu'ils savaient et qu'ils ne seraient pas inquiétés. Tout à fait, ils agissaient en toute impunité. Et que certains policiers ont cherché à s'interposer, à intervenir pour calmer les esprits. Je sais que le commissaire de police du 12e, chargé de la responsabilité de ce centre, a parfois essayé de s'interposer, mais il n'était pas toujours là. Quand il avait le dos tourné, ça recommençait. Ça se passait dans les terrains vagues, dans les bords de Seine, un peu partout. On a même retrouvé des Nord-Africains avec des cravates de gardiens de la paix autour du cou ou étranglés avec du fil électrique. Voilà donc le témoignage de ce gardien de la paix qui témoigne donc une trentaine d'années après.
Nous, on est arrivé là-bas, on s'est regroupé, il était 8h30, entre 8h30 et 9h moins quart. Bon, la manifestation a démarré, et puis, quelques mètres d'ici, comme votre voiture un peu plus loin, on était dispersés violemment. On n'a pas pu arriver au pont.
Dès qu'on m'a dit qu'il commençait à y avoir de la casse, c'est le mot qui a été employé au niveau du boulevard Poissonnière, où ça avait tiré, au pont de Beson, je suis sorti immédiatement pour voir ce qui se passait. Et j'ai assisté à quelque chose d'indescriptible. On ne peut pas raconter. J'ai vu des policiers déchaînés, frappés sur des femmes, des enfants, des vieillards. Ça a été une débauche de coups. Et j'ai vu cette foule admirable, sans une plainte, sans un mot, continuer à avancer. J'ai vu de l'autre côté du pont Saint-Michel des cars qui stationnaient, les gens montaient. J'ai vu des femmes, des enfants sur le bras monter dans le car sans un mot pour être emmenés. Je l'ai su par la suite, soit au stade Japy, soit à Beaujon. Ils sont restés d'ailleurs dans des conditions d'hygiène effroyables et ils ont été relâchés au compte-gouttes dans les jours qui ont suivi, après s'être n'ayant pu ni boire, ni se reposer, ni dormir. C'était extraordinaire. Mais ce que j'ai vu au pont Saint-Michel était véritablement hallucinant.
Pour que les parents se souviennent qu'ils ont eu eux aussi 20 ans. Et pour que les enfants apprennent que certains ont versé leur sang, je dédie chacun de ces mots à Pierre et tous ceux qui l'entourent. Et j'irai les chanter s'il faut, jusqu'aux portes de Billancourt. Le ciel avait mis des nuages aussi rouge qu'un mois de mai. Nous pensions qu'il ferait orage et chacun de nous se taisait. On peut se passer de paroles quand c'est le fond du cœur qui gronde. Il y avait des banderoles dans les rues de Paris la blonde. Autant ils étaient venus des usines et se tenaient en rang serré, bien plus près qu'on ne l'imagine de ceux de l'université. Et pour ceux qui sont morts d'y croire, l'ami Pierrot assassiné en rouge sur les drapeaux noirs, nous avions écrit liberté. Au temps des policiers, un ouvrier, un étudiant, c'était un visage sans nom. Le cri monta du premier rang, ouvrez les portes des prisons. Puis le cri devint un slogan en souvenir des barricades, et nous nous fîmes partisans pour libérer nos camarades. Autant des policiers. Alignés comme à la parade, nous n'avions pas mémoire, plus vite que dans mes chansons. Et même si ce chant vous plaît, ne demandez surtout pas bis. Je l'avais moi-même oublié. C'était tout juste avant 36. Autant. Chanson, si je triche avec l'histoire, c'est afin d'en dire plus long et de vous remettre en mémoire le temps des policiers, le temps.
Avec ma femme sur la place de l'Étoile. Et donc, c'est là que j'ai vu arriver les premiers manifestants. Ça a été, place de l'Étoile, ça a été extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'en fait, les manifestants sortaient de la bouche de métro de l'avenue de Wagram, et de chaque côté de la bouche de métro, il y avait des quarts de flics. Et ils passaient pratiquement entre des rangées de policiers qui étaient beaucoup moins équipés qu'on ne l'a vu par la suite. Enfin, ils étaient beaucoup moins impressionnants, mais ils avaient, en revanche, un énorme, ce qu'on appelle un bidule. Ils étaient armés et ils avaient cet énorme, énorme gourdin avec lequel ils frappaient systématiquement tous ceux qui n'avaient pas un visage français, ce qui... français, hein, puisque... Nous étions tous de nationalité française, mais enfin, il y avait des Français bruns et des Français plus clairs. Moi, je suis un Français clair, et donc je suis passé, ma femme et moi, nous sommes passés sans difficulté, et tout ce qui était brun, donc, était happé, tabassé et compressé dans les quarts de police qui étaient autour. La charge de police a été extrêmement violente, et dans ma mémoire, j'ai un souvenir de silence et de bruit des matraques contre les crânes. Et ça a été un abattoir. C'est-à-dire que tout ce qui était là, tous les êtres humains qui ont été là, ont été assommés. C'est-à-dire, bon, évidemment, il y a tous ceux qui ont pris la fuite, mais disons que 100, 150 personnes qui étaient sur ce trottoir de droite en montant le boulevard Saint-Michel avant d'arriver au coin du boulevard Saint-Germain, ont été assommés, jetés à terre, matraqués à terre. J'étais avec mon ami Jean-Philippe Bernigaud, donc, et Jean-Philippe venait de passer 27 mois en Algérie, comme lieutenant, dans un commando de chasse. Il s'était engagé immédiatement dans le soutien au FLN. Et c'était le seul qui était debout. Et je le vois toujours, parce que je trouve qu'il a été extraordinairement courageux. Je le vois toujours, il était là, debout, dans la rue, au coin du boulevard Saint-Michel, sur la chaussée, les mains dans les poches, à crier, mais il n'a pas une voix de stentor en plus, mais enfin, il a crié assassin, assassin. Alors évidemment, il y a eu deux ou trois policiers qui se sont précipités sur lui, il y en a un qui a levé sa matraque, et à ce moment-là, il y a un gradé qui a eu cette phrase extraordinaire, « Non, pas les Blancs ». Alors ça s'est terminé par... Alors bon, les autres ne l'ont pas cogné. Et on s'est fait traiter d'enculé, de pédé, etc. Bon. Il fallait relever les blessés. On peut, vous savez, distinguer un blessé grave, d'un blessé pas grave. Alors, on a relevé des blessés. C'était très difficile parce que les flics revenaient, chargeaient. On l'a transporté dans la librairie Glomeau où il y avait pas mal de blessés qui étaient étendus à terre. Les pharmacies étaient très correctes. Mais le problème, c'est que les ambulances ne pouvaient pas passer et que quand les ambulances passaient, qu'on sortait les blessés, les policiers chargeaient, cognaient les blessés ou les embarquaient dans les cars de flics. Quand je ne sais plus très bien comment ça s'est passé, mais bon, quand on a fini par sortir de chez Glomeau et on a pris des blessés dans notre librairie, Et là, c'était le même problème. Il a fallu attendre très longtemps. Puis des blessés inconscients, des gens qui saignaient du nez, tous ces coups. Et puis beaucoup de mains blessées aussi, bien sûr, parce que on se protège avec les mains. Des mains brisées. Mais surtout des traumatismes, enfin des choses, des gens qui saignaient du crâne, quoi. Les anciens ont eu beaucoup de mal. Je sais pas comment on a réussi à évacuer tout le monde.
Je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes bien passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers. Si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce. Mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion. Pas de répression, pas de répression. Pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression, c'est quand un homme comptable a refusé le prix Nobel. Respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste. Nous, c'est les trottoirs. Je m'ennuie. Répression, répression. Couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro sur les grands boulevards. Font rage de fesses et seins roses bonbons. Mais attention, attention, attention. Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, encombrer les marchés. Faut laisser circuler la majorité. Répression. Clac. Les vieillards sont atterrés par les jeux de questions posées par leur canard préféré. Salut les cops. Manger de la soupe fait grandir. Vrai ou faux? Bla 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 bla. Vite. La masturbation rend fou. Oh. Vrai ou faux? Chez les mineurs, ils sont en danger. Arakiririkira, 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 le dernier. Eden, Eden, Eden. Ici, on est libre. On n'est pas chez les colonels. On peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison. Flatter n'importe quelle connerie de la télévision. On nous mettra pas en prison. Ah mais non, ah mais non. Mais attention, attention. Où va-t-on, où va-t-on? C'est vrai. Pour faire le procès de la vitesse. Pour bombarder le Nord-Vietnam en deux temps trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Comme ça.
Colette Magny interprétait Répression, sa composition avec Beb Guérin à la basse. Auparavant, c'était François Maspero qui a longuement témoigné sur ce qu'il avait vu lors de cette soirée du 17 octobre 61, à l'évocation de laquelle nous consacrons notre émission de ce soir. Auparavant, vous avez également entendu les témoignages de Moral Oussedik et de Mohamed Chaban du FLN. Et nous poursuivons avec le témoignage de Claude Bourdet et également les témoignages d'autres participants sur ce qu'il s'est passé à la préfecture et à l'hôtel de police.
Je me souviens très bien d'un petit groupe de policiers visiblement républicains, enfin des honnêtes gens, qui étaient horrifiés par ce qu'ils venaient de voir, en particulier dans la cour de la préfecture de police. Alors, c'était la première fois que nous avions un témoignage de ce genre-là, c'est-à-dire un témoignage absolument irrécusable de la part de policiers qui, d'habitude, naturellement, cachaient tout ce qui était défavorable à la police. Ah ben, ils nous ont parlé de la des assassinats, quoi, du fait que un nombre important d'Algériens avaient été jetés dans la Seine, et puis de ce qui se passait, des brutalités qui s'étaient passées dans la cour de la préfecture de police. Or, c'était des choses que nous savions par des ouï-dire, n'est-ce pas ? On le savait par certains Algériens qui étaient venus nous le raconter. On le savait parce qu'avaient vu certains camarades, certains journalistes qui se promenaient dans Paris, mais on ne connaissait pas des détails aussi précis que ce qu'ils nous avaient donné.
Il paraît que le mot n'est pas trop fort, qu'on s'était livré un véritable massacre à l'intérieur de la cour de la préfecture de police. On réunissait les gens, on les frappait avec tout ce qu'on avait. Ils tombaient, c'était à coups de pied. Nous n'avons pas pu établir, quant à moi, je veux rester honnête, on n'a pas pu établir s'il y avait eu des morts ou non. Je suis certain qu'il y a eu des morts à la préfecture de police, dont on a dû le nombre. Et cette agression sur l'immigration à l'intérieur de la préfecture de police a fait l'objet d'ailleurs d'un blackout total, parce qu'on ne pouvait pas comprendre que des scènes aussi atroces se soient passées à la barbe, au nez à la barbe, des plus hauts responsables de la ville de Paris.
Témoignage aussi au procès de Jean-Luc Enaudi, d'un séminariste élève infirmier au service de santé des armées en 61, Gérard Grange, qui était au Palais des Sports avec une trentaine de volontaires, il préparait les sandwichs. Un Algérien a voulu aller aux toilettes, j'ai entendu en un éclair une rafale de mitraillettes et j'ai vu les impacts sur les murs. Puis un militaire s'est approché de moi, il voulait me montrer quelque chose pour que je puisse porter témoignage. Il a ouvert une sorte de placard à balai. À l'intérieur, j'ai compté 9 cadavres. Le lendemain, au parc des expositions, j'ai vu des hommes qui avaient reçu des coups sur la tête et qui avaient les 4 membres brisés. Toujours au cours de ce même procès de Jean-Luc Enaudi, donc au président Jean-Yves Montfort, qui s'étonne qu'une cinquantaine de manifestants aient pu être tués dans la cour d'isolement de la préfecture de police et jetés à la Seine, sans témoin, Émile Portzer répond « Une porte permet d'accéder directement sur les quais, la Seine est à 10 mètres ». Ce Émile Portzer est un membre du syndicat général de la police, président des anciens combattants et résistants de la préfecture de police. Il a, à ce titre, participé à la rédaction d'un texte de policiers républicains contre les exactions du 17 octobre.
Les Français policiers, chanson réaliste. Le visage rasé, couvre-chef lustré, vissé à son sommet. Il y a parfois sous le nez quelques poils rescapés aux moustaches arrangées. Au beau jour de l'été, au mi-temps de la chaussée, dans un style très enlevé, crachant dans des sifflets, nous font circuler les Français policiers. Crachant dans des sifflets, nous font circuler, à circuler les Français policiers. C'est encore le soir en voiture, c'est bizarre, traînant dans les coins noirs. Sept qui s'en vont voir dans les rues, dans les gares, nos Vénus de trottoir.
fêtes qui s'en vont voir dans les rues, dans les bars, l'élite de nos loubards. Pour que quand vient le soir, vaudrait dans nos plumards, on s'endorme peinard. Pour que quand vient le soir, vaudrait dans... Depuis qu'on les a fringués comme ceux de la télé, jouent les justiciers.
Allo Starkey, ici c'est Hutch.
Cette qu'on voit rouler, voiture banalisée dans les rues de nos quartiers. Cette qui crie papier, cette pour qui parler, c'est se mettre à gueuler. T'es déjà inculpé quand tu viens décroiser les Français policiers. T'es déjà inculpé quand tu viens décroiser, pas vrai Karim? Ils sont pas tous achetés les Français policiers, non, y'en a que la moitié. Et quand tu viens déclarer la perte de tes papiers, bah tu te fais engueuler. Pour écrire ce texte, je me suis mis dans le contexte et je les ai fréquentés. Alors je peux déclarer qu'il faudrait les éduquer, les Français policiers. Alors je peux déclarer qu'il faudrait les... Aïe, aïe, mais enfin, comment ça mes papiers? Mais je les ai pas mes papiers, mais enfin, mais là, je... Aïe, vous me faites mal, mais enfin, arrêtez.
En France, 30 ans de silence feutré, d'archives détruites ou dissimulées. Et c'est finalement le 17 octobre 1997 que Jean-Pierre Chevènement confie à M. Mandelkern, président de la section de l'intérieur du Conseil d'État, une mission sur les archives concernant la répression de cette manifestation du 17 octobre 61. Et on vient d'apprendre donc là, en février 99 donc, ce qu'a pu faire émerger M. Mandelkern et Kern est remis en cause par d'autres recherches, par d'autres chercheurs donc, qui ont déjà trouvé beaucoup plus de victimes qu'il n'en était sorti de cette première expertise. Côté algérien, on est moins discret sur le rôle de Maurice Papon. Et en effet, Bachir Boumaza, qui publie un article dans le journal arabophone El Kabar, accuse Papon d'avoir, en tant que préfet de Constantine, auparavant donc, engager la politique de déplacement des populations et l'instauration de zones interdites, et d'être, en sa qualité de chef de la police parisienne, responsable de la ratonnade de la Seine, qui, ajoutera-t-il, gardera pour toujours le nom du criminel Maurice Papon. Il s'agit, écrit Bachir Boumaza, d'une tâche honteuse pour un État qui prétend respecter les valeurs de la République, de la démocratie et des droits de l'homme. Nous allons écouter Sharon par Lenny Escudero, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que ça n'était pas fini. Quelques mois plus tard, ça allait être le drame de Sharon, qui est lui davantage resté à l'histoire et qui a fait beaucoup plus de bruit, on peut dire, dans le moment, du fait que là, c'était des Français métropolitains qui ont été tués. C'était le 8 février 62. Et il y a eu 7 morts donc au métro Charonne, mais c'est encore une autre histoire. Policiers qui n'avaient pas perdu la main et qui ne la perdront pas, puisqu'ils n'étaient pas tous partis en retraite en 68, c'est les mêmes qui utiliseront les mêmes méthodes de brutalité dans la répression 68arde, d'où entre autres les effets médiatiques de cette répression qui a fortement activé le mouvement. On se permettra quand même de faire remarquer que le nombre de morts en 68, surtout le mois et demi, est infiniment moindre que celui de cette seule soirée du 17 octobre 61, même si l'écho dans l'histoire en est beaucoup plus important. Alors, je vous laisse aux réflexions qui s'imposent sur ces conséquences.
Et l'on entend déjà le printemps refleurir aux branches des lilas. C'est une éternité quand on est amoureux. Tu verras mille étés éclabousser ses yeux. C'est aujourd'hui l'hiver et c'est encore printemps. La nature est en vert lorsque l'on a 20 ans. Marie, ô Marie, je t'aime. Tu es mon premier baptême. Marie, que l'amour me pardonne. Ô Marie, Charonne, et moi je reste là. Ni Dieu ni la Madone n'ont plus d'amour que moi. Ça me brûle le cœur d'une douleur si tendre que c'est encore bonheur pour moi que de t'attendre. Je t'attends comme l'oiseau qui mourut d'attendre le printemps où il l'avait connu. Peur à Charonne, mon Dieu, prends-lui la main. Pour venir de Charonne, il est long le chemin. Quelle est cette rumeur venue du fond des temps? J'ai si froid, j'ai si peur, Daniel, reviens-t'en. Y a notre vie à nous qui dort dedans mon ventre. Les fleurs se mettent à genoux, les fleurs te disent rentre.
Pour la constitution du dossier, nous remercions le journal Libération, le journal Le Monde, et puis également France Culture pour les documents sonores. Autour de cette journée noire de l'histoire de France du 17 octobre 61.
Sala la 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 la